Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde a pris place? Ah,
voilà.
Bon, bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. Le culte va commencer. Les pipelettes. J'ose le dire. On va commencer par quelques annonces.
Voilà, bonjour à tous, bonjour.
Salut
à toutes. On voit que c'est les vacances, hein, c'est un petit peu plus clairsemé que d'habitude. À l'école du dimanche aussi, avec un manque presque d'enfants pour faire les activités. Voilà, quelques annonces rapidement. Vous avez certainement remarqué dans l'entrée qu'il y avait une sorte de stand là dans le coin pour les actions paquet de Noël. Alors si vous êtes de l'EM depuis un moment, vous connaissez bien cette action. Cette année, on fait un peu différemment. Je trouve que c'est chouette, c'est rafraîchissant. Merci aux Dubos qui ont travaillé à ça. Et puis on vous rappelle juste qu'il y a deux façons de faire. Hein. Vous pouvez soit participer en faisant un paquet, vous prenez un carton, il y a une liste de choses à acheter, et puis vous ramenez le carton avec tout ce qu'il faut mettre dedans. Ou alors, si vous dites non, j'ai pas le temps, mais j'aimerais quand même participer, eh bien, vous pouvez aussi donner un peu d'argent, ce qui aide à toutes sortes de choses pour la logistique, le transport, mettre des choses qui manquent dans les cartons. Donc voilà, si jamais il y a ces deux façons de faire, on vous encourage à le faire si vous êtes d'accord. Simplement vous approcher d'Annick et Xavier à la fin du culte, un dimanche. Et puis n'oubliez pas que cette action s'arrête prochainement. J'ai plus la date en tête, je l'ai mise dans la cuméra. Dans deux semaines, c'est ça? Ou le 2 novembre, voilà. Donc, vous avez jusqu'au 2 novembre, donc ne tardez pas trop quand même. Et merci d'avance pour votre générosité. On vous rappelle aussi que mardi, c'est les ateliers bibliques ou l'atelier biblique à 20h ici, toujours avec le thème Jésus l'unique. Je peux changer de slide, Laurent. Et puis, on vous rappelle également que nous aurons une activité pour les enfants en particulier. Désolé pour les adultes qui aiment les Lego. Construire la Bible en Lego le samedi 13 décembre entre 14h et 17h. Alors voilà, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans. On demande 10 francs par enfant. Comme d'habitude, si c'est un problème, vous venez nous en parler. Et puis ça se passe ici dans l'entrée. Pour ceux qui ont vu l'année passée comment c'était, c'est vraiment génial. Ils ont des caisses de Lego à disposition. Moi, ça me faisait très envie. Et puis, ils écoutent une histoire de la Bible. Ils construisent plusieurs scènes de la Bible. Et puis après, on veut voilà, voir ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé vraiment chouette. Et cette année, ça va être un peu spécial parce qu'on va utiliser les constructions le lendemain pour la fête de Noël. Voilà, je vous en dis pas trop, mais vous aurez l'occasion de voir ce qui a été fait le samedi. Donc inscrivez-vous auprès de Rebecca ou en écrivant à l'adresse de l'église. Voilà, plein de façons de faire. Aussi vous dire que c'est déjà bientôt Noël, je sais, ça va vite. Fête de Noël le 14 décembre à 15h. Voilà, pas de culte le matin, hein, venez pas à 9h, vous allez être tout seul. Ou peut-être que vous serez un petit groupe et vous pourrez aller boire le café ensemble, mais il n'y aura pas de culte. Et puis, un petit peu comme l'année passée, voilà, ce sera un temps festif, il y aura des chants, il y aura du traditionnel, mais aussi du moderne, avec un super goûter, buffet de dessert à la fin. On se réjouit déjà de manger tout ça, et puis de vivre ce temps ensemble. Aussi pour vous dire, je sais qu'il y a deux personnes qui sont très au courant ici, mais peut-être pas tous, qu'il y a eu une naissance récemment. Marie-Léa et Cyril sont heureux de nous annoncer la naissance de Simon, né le lundi 13 octobre à 1h40. Et pour ceux que ce genre de détails intéresse, il pèse 3,7 kilos. Voilà. Moi, j'oublie toujours, dès qu'on me le dit, c'est... Voilà. S'ils nous regardent en streaming, on vous salue. Voilà. Et puis une dernière chose, du 24 au 28, Philippe sera en congé. Donc merci de ne pas lui écrire à ce moment-là. Il y a plein d'autres personnes que vous pouvez contacter s'il y a une urgence, soit moi, soit Rebecca, éventuellement une personne du conseil. Voilà, merci d'avance. Et puis d'avance, on te souhaite un bon temps de repos, Philippe. Voilà, bon culte et puis à tout à l'heure.
Dieu est grand. Pas dans le sens de puissance, c'est pas dans ce sens-là que je l'entends aujourd'hui, dans le sens de l'ampleur, dans le sens qu'il nous dépassera toujours dans ses pensées, dans ses sentiments, dans sa manière d'être, dans les projets qu'il a, il nous surprendra toujours. Parfois, il nous désarçonnera. Il nous bloquera aussi peut-être. Des fois, ça nous semblera vraiment très bizarre ce qu'il est en train de faire. Parce que Dieu, quand il agit, quand il nous parle, ça peut vraiment être parfois des choses auxquelles on ne s'attend pas, auxquelles on n'a pas pensé ou qu'on n'aurait pas voulu comme ça. Mais c'est Dieu et il vient nous rencontrer ce matin aussi. Et l'amour de Dieu, les enfants, il est comment l'amour de Dieu? Il est comme ça? Non! Faut dire non! L'amour de Dieu, il est comme ça! J'ai pas les bras assez grands! Comme ça! Il crève le plafond! Il crève les fondations du bâtiment! L'amour de Dieu, tu peux pas savoir comment il est. Tellement il est grand et il te surprendra toujours. Pour chacun d'entre nous, Dieu est grand. Il est fidèle et bon. Son amour infini nous confond. Ce matin, nous poursuivons notre exploration des actes par la fin d'acte 9 et le début d'acte 10. Et au menu, bon, les enfants, vous aurez un autre menu que nous, mais bon. Au menu, il y a une guérison, une résurrection, une parole de Dieu qui est adressée à un homme et une vision. Que de mystère. Nous prions. Seigneur notre Dieu, devant ta grandeur, nous nous sentons petits. Parfois nous avons de la peine à l'accepter parce qu'elle ne c'est pas comme tu réagis pas comme on pense. Mais Seigneur, s'il te plaît ce matin, viens nous visiter par ton esprit. Nous aimerions te rencontrer. Nous avons besoin d'être toi, besoin de ta présence. Merci parce que tu es avec nous ce matin, avec nous qui sommes là dans ce bâtiment, avec ceux qui nous suivent depuis chez eux ou qui sont ailleurs dans l'impossibilité de nous rejoindre. Sois avec chacun. Merci. Amen.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Le premier chant est un hymne à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons louer son nom, car il est grand, par amour pour nous sauver et nous réconcilier avec le Père. Il s'est sacrifié sur la croix, mais au troisième jour, il a ressuscité des morts. Et si nous gardons notre cœur pour Jésus, nous serons libres à tout jamais. Chantons gloire à son nom.
De larmes trempées dans la sombre.
Rédempteur du monde, pour nous, tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Matthieu 6:6, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelle chance nous avons d'avoir une oreille toujours attentive qui est là dans les moments difficiles pour nous relever par son amour infaillible et inconditionnel, pardonner les péchés que nous confessons pour enlever toute culpabilité, nous aider à pardonner à ceux qui nous ont blessés pour que nous ne gardions aucune rancœur en nous, pour être à la fois notre Père, notre ami et notre lumière qui nous guide. Alors oui, nous aspirons, Jésus, à un cœur à cœur avec toi.
C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi.
C'est toi.
seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur.
Les enfants, vous allez nous quitter, mais avant, j'aimerais prier pour vous et vos moniteurs. Aujourd'hui, c'est Laïs et Rebecca. Seigneur notre Dieu, merci pour les enfants. Nous avons chanté que ton amour et ta grâce abondaient. Seigneur, que c'est toi qui nous attires à toi. Alors, Seigneur, attire ces enfants à toi. Sois avec Laïs et Rebecca, afin qu'elles soient les canaux de transmission de ton amour, de leur amour pour toi, et que ces enfants aient envie de croire en toi. Bénis-les dans ce moment qui est pour eux maintenant. Amen. Bon moment pour vous, vous pouvez vous en aller. Vous êtes libre.
On est très heureux d'avoir une très belle équipe technique rajeunie ce matin avec Victor aux manettes et tout marche bien, merci, c'est cool. On me dit dans l'oreillette que nous avons eu une livraison spéciale de fleurs tout à l'heure. Alors c'est un peu un mystère, on a été livré par Fleurio Fleurs en orchidée, c'est juste. Mais on ne sait pas de qui, par qui, pour qui. Si vous avez une piste en direct ou là-bas chez vous, derrière votre écran, faites-nous un petit signe qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'important. C'est beau les orchidées. Moi je les récupère volontiers, mais enfin, elles fleuriront bien l'avant si elles ne sont pas destinées à quelqu'un en particulier. Chantais tout à l'heure, je fais juste un petit aparté. Chantais tout à l'heure, un jour dans la gloire, je verrai sa face, rédempteur du monde. Et j'ai une pensée particulière ce matin pour la famille Glore. Nicolas Glore est décédé lundi matin. C'était le meilleur ami d'Elisa qu'il a. Et il était atteint depuis 6 ou 7 ans de la terrible maladie de Charcot. Il s'est éteint lundi matin, paisiblement. Et nous avons célébré ses obsèques vendredi après-midi à Jorat-Mézières. Et je crois que la maman Marie-Claire regarde ce matin et j'aimerais te redire Marie-Claire nos pensées et peut-être aussi pour nous juste des fois l'occasion de nous rappeler à la fois la brièveté de la vie et puis en même temps les perspectives glorieuses qui attendent les fils et les filles du roi des rois que nous sommes. On poursuit avec notre survol du livre des Actes et toujours le recours à Slido. Donc Slido, hein, c'est cette appli que vous pouvez facilement trouver sur vos smartphones et qui vous permet de poser des questions, de voter pour les questions qui vous semblent pertinentes. Et puis tout à l'heure, nous prendrons quelques minutes pour prendre les questions les plus pertinentes, celles qui ont probablement obtenu le plus de votes en ligne. Si vous étiez là la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être que nous avons regardé la conversion de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, sa conversion sur le chemin de Damas. Nous avions dit qu'il y avait là un récit hautement stratégique, avec pas mal de détails, à cause du rôle immense que jouera le futur apôtre Paul dans l'histoire de l'Église et puis dans l'enseignement apostolique qui nous est parvenu aujourd'hui encore. Nous avons aussi dit que c'était un récit qui nous fait réfléchir. Réfléchir sur ce qu'est la conversion à Christ et ce qu'elle n'est pas. Réfléchir sur le rôle que nous autres, chrétiens et chrétiennes ordinaires, nous pouvons jouer dans la vie des autres. Nous y avons vu une incitation à la constance, à la foi, à la prière, à l'amour et à l'accueil. Et puis ce matin, j'aimerais que nous regardions une autre conversion. Mais dans un sens du mot qui est peut-être un peu moins habituel pour nous, mais une autre conversion. Et je parle là de la conversion de l'apôtre Pierre. Non pas sa conversion à Christ, mais un demi-tour que Pierre a dû faire dans sa tête. Un demi-tour dans sa tête, dans ses attitudes, dans ses convictions. Le repas du jour, il est donc proposé avec un apéritif, une entrée et un plat principal. Alors voilà pour l'apéritif, nous allons écouter ou suivre la lecture dans nos Bibles en Actes 9, les versets 31 à 35.
L'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait en reconnaissant l'autorité du Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'aide de l'Esprit-Saint. Pierre, qui parcourait tout le pays, se rendit un jour chez les croyants qui vivaient à Lydde. Il y trouva un homme appelé Énée qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. » Aussitôt, Énée se leva. Tous les habitants de Lydde et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur.
Qu'est-ce que ça nous dit, ce passage? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit?
Qu'il y avait des miracles à cette époque.
Pardon?
Qu'il y avait des miracles à cette époque.
Qu'il y avait des miracles à cette époque, et je crois qu'il y en a encore. Bah, je trouve que ça nous dit déjà quelque chose sur la grande autorité spirituelle de Pierre. Mais il ne guérit pas par sa propre puissance, il guérit par la puissance de Christ. On peut dire aussi que voilà un miracle qui ne vient que renforcer la prédication, la présentation, l'annonce de l'Évangile. Et c'est là l'une des marques des apôtres. Les miracles, l'annonce de l'Évangile. Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Par exemple, hein, déjà en acte 3, au verset 6, c'est Pierre aussi qui dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Mais ça nous rappelle aussi des guérisons de Jésus, c'est un peu mousse maintenant, des guérisons de Jésus. Par exemple, le paralysé de la piscine de Bethesda, en Jean 5, verset 8. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ou l'homme qu'on fait passer par le toit, en Luc 5, 24. « Prends ton lit et va dans ta maison. » Donc Pierre, il fait comme Jésus. Le disciple, il poursuit le travail de son maître. Un vrai disciple, il met les pas dans les pas de son sauveur. Bon, ça c'était pour l'apéro. Pas trop chargé, ça va? Alors après l'apéritif, je vous invite à l'entrée. Acte 9, 36 à 43.
Il y avait à Jaffa une disciple appelée Tabitha. Ce nom se traduit en grec par Dorcas, la gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Jaffa avaient appris que Pierre se trouvait à Lydde, qui est proche de Jaffa. Ils lui envoyèrent 2 hommes avec ce message : « Nous t'en prions, viens, viens chez nous sans tarder. » Pierre partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montraient les chemises et les manteaux que Tabitha avait confectionnés quand elle vivait encore. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et la releva. Il appela ensuite les croyants et les veuves et il leur la présenta vivante. On le sut dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jaffa chez un ouvrier du cuir appelé Simon.
Merci. Eh bien, voilà encore un récit plus remarquable s'il était possible. Tabitha ou Dorcas en grec, c'était manifestement quelqu'un de bien, une femme de valeur. Le texte précise, elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. Juste ça, vous et moi, nous pourrions prendre exemple sur elle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. Juste ça, on pourrait s'arrêter là. Vous vous rendez compte ? Ce qu'il est dit de cette femme. Puis regardez ce qui se passe quand elle meurt. Les chrétiens envoient chercher Pierre à 20 km de là. On a besoin de lui. Pourquoi on a besoin de Pierre ? Pour qu'il vienne partager le deuil de ces chrétiens affligés ? Le deuil, c'est quelque chose qui se partage en communauté chrétienne. Pour qu'il vienne honorer la mémoire de Tabitha lors des obsèques, pour qu'il la ressuscite. On ne sait pas trop pourquoi on va chercher Pierre, mais il y a quand même peut-être chez ces chrétiens le fol espoir que Pierre va faire quelque chose. Pierre, franchement, il a une sacrée réputation. Puis là, il faut qu'il se dépêche. Vous avez vu ce qu'il fait ? Tout le monde est en larmes. Pierre monte à l'étage. Fait sortir tout le monde. Et il dit « Tabitha kumi », c'est-à-dire « Tabitha, lève-toi ». Il la prend par la main et il la présente vivante à ses amis. Ça vous rappelle quelque chose ? Un miracle du prophète Élie, peut-être ? Mais surtout, un miracle du Seigneur Jésus, la résurrection de la fille de Jaïrus, rapportée dans 3 des 4 évangiles. Et ça, il ressemble beaucoup, jusque dans les mots en araméen que Jésus a employés. Jésus, il dit « Talita kumi », Pierre, il dit « Tabitha kumi ». Autrement dit, Pierre, c'est vraiment quelqu'un. Pierre, c'est vraiment quelqu'un. Il ressuscite cette femme qui est décédée et qui représentait une telle perte pour les chrétiens. Pierre, c'est quelqu'un. Mais si on dit à juste titre que ce n'est pas par sa propre force que Pierre fait revivre des morts, il faut quand même admettre que le Seigneur lui fait faire des choses que vous ne verrez dans aucune église évangélique de la région genevoise ce matin. Et c'est peut-être normal. Parce que ce qui était normatif avant les miracles, ce que Jésus lui a demandé à Pierre, c'est de fortifier ses frères et de conduire les brebis. Vous vous rappelez, le rétablissement de Pierre, Jean 21. Prends soin d'eux, prends soin d'elles. Sois avec eux, fortifie-les. Ce que le Seigneur lui a demandé aussi, c'est le jour de la Pentecôte, d'ouvrir la porte du royaume de Dieu aux habitants de Jérusalem et aux Juifs qui sont venus en pèlerinage du monde entier. Et ça, Dieu lui a demandé d'ouvrir la porte. Puis un peu plus tard, on le fait venir, Pierre, pour consacrer la conversion des Samaritains que Philippe avait évangélisés. Donc, Dieu a donné à Pierre, au moins dans les premières années de la vie de l'Église, un rôle de premier plan. Quel homme ! Et maintenant, pour le plat de résistance, on va voir que cet homme absolument remarquable, on va voir que Pierre, malgré tout, il a tellement de mal à s'affranchir de certaines idées, de certaines habitudes, voire de certains préjugés. Et je vous propose, c'était le contexte, hein, il faut des fois poser le contexte, je vous propose de garder ça en tête. Pierre, un homme extraordinaire, appelé par Dieu, doué par Dieu, qui fait des trucs de dingo, mais qui a des résistances. On écoute la lecture du texte en Actes 10, 1 à 23.
Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était centurion dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Il était attaché à Dieu et reconnaissait son autorité avec toute sa famille. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait Dieu en tout temps. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange tout effrayé et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres et il se souvient de toi. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier du cuir nommé aussi Simon, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats à son service, qui était un homme attaché à Dieu. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Jaffa.
Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit, en terrasse de la maison, vers midi, pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe, tenue aux 4 coins et qui s'abaissait à terre. Il y avait dedans toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, sacrifie ces animaux et mange-les. » Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut remonté dans les cieux. Pierre se demandait quel était le sens de la vision qu'il avait eue.
Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent « Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre ?» Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi ? pourquoi êtes-vous venus ? Ils répondirent, nous venons de la part du centurion Corneille. C'est un homme droit qui reconnaît l'autorité de Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de venir chez lui pour écouter ce que tu as de te faire venir, pardon. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit.
Merci. Je vois ici de nouveau le rôle important que Pierre a joué tout au début de l'Église. On voit qu'il est au bénéfice d'une révélation spéciale de la part de Dieu. C'est normal, on pourrait dire, pour un apôtre, puis en même temps, ce n'est pas tout à fait normal. Parce que ce chapitre montre que même un apôtre, un grand bonhomme, peut avoir du mal à changer d'avis par rapport à des convictions très ancrées. Et c'est ça qui va nous interpeller en conclusion tout à l'heure. Mais commençons par le commencement.
Il n'y a plus de micro. Ouais.
Je pousse la voix. Poussez-moi qui... Merci. Comme ça, Victor, ça te fait la totale ce matin. Bravo. Merci. Pierre, il a été élevé dans le respect de la tradition juive. Et cette tradition juive, elle inclut toutes sortes de règles. Des règles sur la nourriture, sur les choses qu'on peut toucher, sur les choses qu'on n'a pas le droit de toucher. Et dans la pratique, au moins, la religion juive interdit la fréquentation des personnes impures et surtout celle des pécheurs, des idolâtres et des païens. En même temps, Pierre, ce n'était pas le plus scrupuleux des traditionalistes, parce qu'on le voit dans les évangiles, qui arrache des épis de blé un jour de sabbat, ce qui était formellement interdit par la loi. On le voit qui mange un jour sans se laver les mains, ce qui était formellement interdit par la loi. Juste avant, dans les Actes des Apôtres, on le voit même qui s'affranchit d'autres traditions. Il va chez les Samaritains et il les traite comme ses frères en Christ, alors qu'ils sont tellement éloignés de la foi en Christ. Juste avant ce qu'on a lu, il monte dans la chambre d'une femme qui est morte, ce qui est scrupuleusement interdit par la loi. Puis il va loger, et ça nous a rappelé deux fois, chez un tanneur, Simon, un homme qui manipule à longueur de journée des cadavres d'animaux morts et dont tout l'atelier dégage une odeur pestilentielle. Ce qui est formellement interdit par la loi. Mais Pierre y va. Donc ce n'est pas le plus grand des traditionalistes. Et en même temps, il y a deux traditions, deux tabous, si vous préférez, qui le marquent encore profondément. Les lois sur les aliments, purs et impurs, et la séparation nécessaire d'avec les païens. Et voilà que Pierre reçoit cette vision d'une bâche, d'une nappe qui descend du ciel avec toutes sortes d'animaux dedans. Des animaux purs comme un mouton et des animaux impurs comme un cochon, un lapin, une autruche, un cheval. La loi est très claire là-dessus. Et que fait Dieu? Il lui dit d'en manger. Ben non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. Ça va pas, Seigneur. Ce non, Seigneur, moi je le trouve un peu contradictoire dans la bouche de Pierre. D'autant plus que quand les gens les plus religieux ont critiqué Pierre pour avoir mangé sans se laver les mains, Jésus a pris la défense de Pierre en disant ceci: ce qui entre dans l'homme souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Ce disant, affirme l'évangéliste Marc, Dieu a déclaré que tous les aliments étaient purs. Mais là, le tabou, il est trop fort pour Pierre. Sa compréhension de l'Écriture est trop forte, pas assez globale. Son désir de respecter la volonté de Dieu est excessif. Et Dieu lui dit qu'il se trompe. Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Et là, rendons à Pierre l'honneur qui lui est dû. Quand les hommes de Corneille frappent à la porte, Pierre comprend à ce moment-là que Dieu s'intéresse bien plus aux êtres humains, à tous les êtres humains, aux païens compris, pas juste aux juifs, aux païens compris. Et là, Pierre, il s'apprête à faire 50 kilomètres pour aller chez Corneille. L'enjeu chez Pierre, c'est l'ouverture du royaume de Dieu aux non-juifs. Ce n'est moins, rien que moins, que l'évangélisation du monde. Cela ne devrait poser de problème à personne, l'évangélisation du monde. Parce que les apôtres, ils sont là pour ça, normalement, l'évangélisation du monde. Mais non, Pierre reste bloqué par ses schémas de pensée, ses convictions apparemment bibliques. Je mesure le poids des convictions religieuses quand je pense à tout ce que Pierre aurait dû savoir sur le salut offert aux païens. Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi, à travers ta postérité. David, les nations du monde entier sont invitées à se joindre à toi pour louer Dieu. Ésaïe, le Messie sera une lumière pour les nations. Et Jésus quand même, allez dans le monde entier et faites des disciples parmi les gens de toutes les nations. Pierre, le religieux, il le connaissait ça. La loi, les prophètes, les psaumes disent à Pierre d'annoncer l'évangile aux païens. Jésus lui ordonne d'annoncer l'évangile aux païens. Et pourtant, il ne comprend pas, il ne fait rien. Il lui faut donc une triple vision qui descend du ciel pour changer. Lui, le porte-parole des 12, lui qui a ressuscité Tabitha, lui, le grand apôtre, a besoin d'une triple vision pour changer. J'ai mis du temps avant d'y venir, mais j'y viens maintenant. Qu'est-ce que cela nous dit? Tout à fait accessoirement, cela pourrait nous libérer pour manger de tout sans complexe. Du porc, du cheval, de l'autruche, des fruits de mer, et bien plus encore. 1 Timothée 4, verset 4, dit « Rien n'est à refuser pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, avec de la reconnaissance. » Et oui, même des rillettes ou du foie gras. Parce que la pédagogie du pur et de l'impur est arrivée à son terme en Christ. Fréquenter des gens de toutes les nations, de différentes cultures, Nous sommes issus ici de bien des nations sur la terre, probablement même des 5 continents, de près ou de loin, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Ce n'est généralement pas trop un problème pour nous ici à Mérin, l'idée d'être ouvert à toutes les nations. Mais veillons, particulièrement à l'heure de toutes les polarisations, du doigt pointé vers l'autre, de ces phrases, de ces mots, de ces regards qui désignent l'étrange, l'étranger. Veillons, être ouverts à toutes les nations, même si ça semble acquis, il faut y veiller. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est l'idée que des personnes religieuses comme Pierre peuvent vivre à l'intérieur de graves blocages. Nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous arc-bouter sur une tradition ou sur une interprétation de la Bible sans nous rendre compte que nous sommes à côté de la plaque. C'était déjà le cas de Saul de Tarse, hein, quand il persécutait l'Église. C'est aussi le cas de Pierre ici. Et plus tard dans la Bible, nous apprendrons encore qu'il a eu du mal à rester dans la lignée de l'ouverture qu'il a pourtant adoptée en Acte 10. Vous savez, mes amis, avoir des convictions, c'est une force. Mais avoir des convictions, ça peut aussi être une faiblesse. Ce que nous avons lu ce matin ne dit pas clairement comment nous pouvons faire pour ne pas être piégés comme Pierre. Je pense que nous avons besoin de nous examiner parfois. Et je vais quand même prendre sur moi en conclusion pour vous suggérer 3 pistes où nous avons besoin de nous examiner. La première, c'est de cultiver une certaine humilité par rapport à la Bible. Est-ce qu'elle dit vraiment ce que je crois qu'elle dit ? Je le redis, une certaine humilité par rapport à la Bible. Est-ce qu'elle dit vraiment ce que je crois qu'elle dit ? Ceux qui ont condamné Jésus se sont trompés sur leur compréhension de la mission du Messie. Ils s'appuyaient sur la Bible et ils se sont trompés gravement. Les apôtres étaient dans le même cas avant la résurrection. Et Pierre était bloqué par rapport à l'ouverture aux païens. Une certaine humilité devant la Bible. Est-ce qu'elle dit vraiment ce que je crois qu'elle dit ? C'est quoi le remède ici ? Eh bien, c'est de revenir à la Bible. C'est de l'étudier avec d'autres. C'est de profiter des choses qui ont été écrites par des gens plus savants que nous. C'est de prier. C'est de ne pas se contenter d'un hashtag ou d'une vignette sur Internet. La Bible, elle va parfois nous amener à changer d'avis. Elle doit nous amener souvent à changer de conduite pour devenir plus saint, plus gracieux, de l'humilité devant la Bible. Ensuite, de l'humilité devant nos frères et sœurs. Parce que moi tout seul, je ne sais pas tout. Et le mouvement évangélique,
il est pas né ces 20 dernières années aux États-Unis. Nous avons au bas mot 5 siècles de tradition réformée, au bas mot. Quand un frère ou une sœur pense autrement que moi, je peux au moins l'écouter, l'aimer, dialoguer avec lui, avec elle, rester loyal vis-à-vis de lui, ne pas dénaturer sa pensée pour mieux polémiquer contre lui. Je peux renoncer à le caricaturer auprès d'autres. Ce dialogue dans l'humilité, il peut m'amener à changer d'avis ou au moins à affiner mes propres convictions. Le dialogue, il peut aussi amener l'autre à évoluer. Je sais que le dialogue, il est risqué et que c'est pour cela que certains en ont peur. Humilité devant la Bible, humilité devant nos frères, et puis du courage. Du courage pour mettre en pratique ce dont Dieu nous a convaincus. Jésus, il est allé chez des pêcheurs. Il a mangé avec des pêcheurs. Et c'est pour ça qu'on l'a critiqué. On ne l'a pas critiqué pour sa doctrine. On l'a critiqué pour ce qu'il faisait. Pierre va aller chez Corneille. On verra ça dans 15 jours. Et on va le critiquer pour ça, sévèrement. Dans la famille, au travail, dans l'église, dans une union d'église, on peut parfois prendre des options qui ne sont pas comprises. Et je sais que certains débats sont de ce genre aujourd'hui. On ne va pas se battre contre des moulins, mais humblement et courageusement, on va essayer de marcher avec Dieu. Un tout dernier point. J'ai parlé au début d'une conversion chez Pierre. C'était un peu provocateur, mais un peu seulement. Parce que la Bible, elle utilise des mots comme cela. Mais fondamentalement, qu'est-ce que la conversion à Christ, sinon un demi-tour? L'aveu qu'on s'est trompé, la décision de repartir tout autrement et de le mettre en œuvre. Malgré des fois les habitudes d'une vie, malgré des traditions, malgré des blocages internes, malgré des convictions fortes qui, en fait, ne tiennent pas la route. Alors oui, ça peut être coûteux de remettre certaines choses en question, coûteux, mais libérateur aussi. Que Dieu nous aide à voir plus clair et à ne pas lui résister quand enfin, nous comprenons d'autres choses. Je m'arrête là pour ce matin. On va voir un interlude musical et puis on prendra quelques instants pour le Slido. Merci. Plusieurs très bonnes questions. Purée, vous êtes fort. Comment ne pas relativiser n'importe quel commandement, loi, principe, valeur, tradition? Excellente question. La pire façon de relativiser n'importe quel commandement, loi, principe, valeur ou tradition serait de mettre de côté ce que Jésus a dit pour résumer la loi. Toute la loi, dit-il, toute la loi tient en ceci. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si je sors de ça, je relativise la loi. Si je prends de la loi des éléments de détail qui ne prennent pas en compte l'amour pour les autres et l'amour pour Dieu, je relativise la loi. La loi doit être source d'inspiration morale. Mais elle n'est pas un aboutissement. L'aboutissement de la loi, c'est l'amour pour le prochain et l'amour pour Dieu. Tout le reste n'est que garniture. Ou alors, je prends toute la loi et je ne suis pas là ce matin, mais je fais Shabbat. Je n'allume pas le chauffage, l'électricité chez moi. Je ne me déplace pas plus que de quelques dizaines de mètres. Je porte des vêtements qui ne sont pas cousus. Je ne me maquille pas. Je suis forcément mari d'un seul homme, femme, mari d'une seule femme, femme d'un seul homme. Si j'ai mes règles, je ne suis pas là ce matin. Mais on choisit, on pique, on vient prendre dans la loi ce qui nous rassure généralement. Là où on peut dire « oui, mais moi je ne suis pas comme ça ». Ça, c'est les autres. Moi, c'est bon. Et Jésus le savait. Et c'est pour ça qu'il est venu résumer la loi en deux paroles seulement. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Tout le reste vient relativiser la loi. Et je demande à Dieu qu'il nous protège de ça. Comment faire quand les nations que nous voulons accueillir se montrent conquérantes ou prosélytes? Je pense que l'accueil de toutes les nations dans l'Église, avec tout ce que ça implique de différences culturelles, implique qu'on n'est pas dans l'Église pour militer. C'est des fois une difficulté pour moi. On n'est pas dans l'Église pour militer, pour sa culture ou pour sa religion, et en particulier quand la religion est différente. On est là pour se rassembler autour de la table de communion et du souvenir du Christ mort et ressuscité pour nous. Le militantisme au sein de l'Église pour une culture, pour une opinion politique, pour une forme de religion, à mon avis, ça ne fait que créer des divisions. Maintenant, est-ce que l'Église est un signe suffisant pour que des gens qui arrivent d'autres cultures, qui partagent notre foi, se disent « purée, je rencontre là des frères et des sœurs. Je les aime et ils m'aiment. Je peux vivre ma foi. Même si culturellement, ici ou là, bon, hein, je ne m'y retrouve pas. Mais on n'est pas là pour militer pour une culture. Comment savoir si nos convictions viennent de Dieu et pas de la conviction de ceux et celles qui partagent les leurs? C'est ça le dialogue. J'ai appris, moi, dans ma petite vie à moi, que quand il y a une conviction forte qui vient dans un domaine ou dans l'autre, je dois l'éprouver. Première chose, je dois l'éprouver à la lentille des Écritures. Est-ce que ma conviction, elle fait écho aux Écritures? Si la réponse est non, à ce moment-là, il faut que j'apprenne à la laisser de côté. Si la réponse est oui, je continue d'éprouver ma conviction, en particulier en rencontrant les frères et sœurs dans la foi. Parfois plus expérimentés, parfois moins expérimentés, mais j'ai besoin d'éprouver mes convictions. C'est un des buts de votre conseil, par exemple. Je pourrais vous dire quantité de sujets, sans trahir de secrets, où des convictions fortes sont éprouvées en discutant les uns avec les autres. Et c'est un privilège énorme d'avoir un conseil qui dit « on va pas trop vite ». On réfléchit un peu, on prie, on compare. Puis à un moment donné, on peut prendre une option. Donc mes convictions, oui, j'ai besoin de les éprouver au minimum à la lentille de l'écriture et à la lentille de mes frères et sœurs dont j'ai besoin. Je prends une dernière question. Aujourd'hui aussi, on peut voir des miracles. Pas qu'il y a 2000 ans, c'est sûr. Tu en penses quoi? Bien sûr qu'on peut voir des miracles. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien sûr qu'on en voit des miracles. Vous en avez peut-être vu dans votre vie, j'en ai vu dans la mienne. Mais je pense que la force, le nombre, l'intensité des miracles que l'on lit dans le livre des Actes, il était là d'abord pour authentifier que l'Évangile était vrai. Et aujourd'hui, cet héritage, nous l'avons dans nos Bibles. Nous savons que l'Évangile est vrai. Je pense à la résurrection de Tabitha. Nicolas, j'aurais bien voulu qu'il soit ressuscité sous mes yeux, sous les yeux de ses parents. Ce n'est pas arrivé. Mais, parce que l'Évangile est vrai, nous pouvons affirmer que le Christ le ressuscite, qu'il est auprès de Dieu. Et que c'est ce qui nous attend, même si le plus grand des miracles que nous espérons à quelque part, c'est l'immortalité, n'intervient pas. Parce que nous savons que même le jour où notre cœur s'arrête, l'histoire ne se finit pas là, elle continue dans la gloire, dans le repos auprès du Seigneur, et nous le savons parce que l'Évangile est vrai, et parce que les miracles du livre des Actes l'ont authentifié. Mais Dieu fait des miracles aujourd'hui encore, et ce serait offensant de lui enlever ça. Je m'arrête pour ce matin. Merci beaucoup pour vos bonnes questions et puis on poursuivra l'histoire de Corneille dans 15 jours.
Devant toi à genoux, nous te chantons un psaume.
change nos vies et nos ennuis. Ton nouveau cœur de chair éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi à ton œuvre, Père, et change mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi.
C'est pas facile de se dire que bon, quand on est devant une conviction qu'on a besoin de changer, c'est pas très facile. On a vu avec Pierre, et je me suis dit en préparant, comme Philippe, que c'était bizarre qu'il ait eu autant de peine à imaginer que Dieu pouvait lui demander quelque chose auquel il n'avait, quelque chose de neuf auquel il n'avait pas pensé. Parce que pendant qu'il était avec Jésus vivant, c'est des situations qu'il a vécues souvent. Je ne sais pas, vous avez des idées que quand, de choses que Jésus a faites et qui étaient... Bon, Philippe en a cité quelques-unes, mais il y en a encore d'autres.
Chez une prostituée.
Voilà, il a mangé avec une des prostituées, avec des gens qui avaient mauvaise réputation, des pêcheurs. Il a touché des lépreux, une femme qui avait une perte de sang. C'était des gens impurs, comme Philippe l'a rappelé. Et puis je pensais aussi à quand Jésus a annoncé qu'il allait mourir. Et bien ça, les disciples, ils ont eu de la peine à se le mettre dans la tête. Même Pierre a reçu un mot très fort arrière de moi, Satan. Parce que c'était un titre trop fort, Jésus, il aurait bien voulu passer à côté. Mais ça a été très, très difficile. Ça, voilà. Alors, je me dis, autour de cette table, il y a tous ces gens, ceux qui ont été guéris, ceux qui ont été pardonnés, ceux qui ont été remis sur pied par Jésus, ceux qui ont accepté la nouvelle façon de voir, la bonne nouvelle de Jésus. Il y a ceux qui ont eu de la peine, il y a ceux qui se sont bloqués, il y a même Judas, et puis il y a nous, et nous on n'est pas différents d'eux. On a aussi nos difficultés à croire à l'inouï de Dieu, à s'imaginer que Dieu ne rentre pas dans nos petites cases, qu'il est beaucoup plus grand que ça. Alors, tant que nous sommes tous invités à manger le pain et à boire le vin, à croire au pardon, à l'accueil de Dieu et à recevoir sa vie.
Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le partagea et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe, après le repas, en disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est conclu grâce à mon sang versé pour vous. Mais regardez, celui qui me livre est ici, à table avec moi. »
pain que nous rompons.
Le pain que nous rompons, c'est le corps du Christ qu'il s'est donné pour nous. Il l'a donné à ses disciples pour qu'ils en mangent, et ils en ont tous mangé, même Judas. La coupe de vin représente le sang de Jésus qui a versé pour le pardon des péchés, pour la multitude que nous sommes. Ce salut est arrivé jusqu'à nous, les non-juifs, les païens de l'époque. Tous en ont bu, nous en boirons tous, et même Judas en a bu. Jésus n'est pas mort pour que nous nous morfondions dans nos péchés, nos incapacités ou nos insuffisances, mais pour que nous puissions être sûrs d'être accueillis, pardonnés, que nous sommes accueillis, pardonnés par Dieu et aimés. Même si à nos yeux nous ne correspondons pas à tous les critères pour être admis à cette table, aux yeux de Dieu, nous sommes admis à cette table. Il n'y a pas d'examen d'admission. Cette scène est pour chacun d'entre nous, elle est un don gratuit de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à vous lever pour vous emparer de cette scène, de ce pardon, de cet accueil, de cet amour de Dieu et à goûter combien le Seigneur est bon. Vous pouvez vous avancer. Vous avancez par les deux travées là, et puis on repart sur le côté. En attendant votre tour ou en attendant que les autres aient passé, vous pouvez peut-être repasser dans votre tête et dans votre cœur ce que Philippe nous a dit. Dire à Dieu ce que ça vous fait. Et puis, vous pourriez aussi, mais ça je vous demande dans votre cœur, parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, de le faire dans votre cœur, de prier pour notre monde qui en a bien besoin.
Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Nous pouvons repartir le cœur allégé. Nous pouvons repartir avec ce cadeau que tu nous fais. Et Seigneur, avec les chrétiens du monde entier, pour notre monde qui souffre, qui est déboussolé, qu'on ne sait pas où il va, ensemble nous aimerions te dire notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. En conclusion de ce culte, je vous propose de chanter « Parle-nous ». C'est un chant que nous chantons plus volontiers juste avant la lecture de la Bible et de la prédication, mais je crois que nous pouvons aussi le chanter comme une prière pour tous les jours. Étant rassérénés par l'accueil de Dieu de nos personnes en ayant pris la scène, en sécurité dans son amour, nous pouvons lui dire par ce chant notre désir de dépasser nos peurs et notre souhait d'être ouverts à sa nouveauté, conscient qu'il peut penser et agir très différemment de ce que nous pensons. Et pendant ce chant, nous recueillerons notre offrande par les sachets qui vont passer au milieu de vous, ou par Twint qui s'affiche, ou par virement bancaire. C'est une manière d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Nous chantons. Vous pouvez.
Parle-nous, renouvelle.
Seigneur, merci pour tous les biens que tu nous accordes. Cette offrande, c'est pour te dire que nous recevons ce que tu nous donnes avec reconnaissance. Bénis les personnes qui ont bénéficié, bénis notre conseil, bénis nos activités. Merci pour tout. Amen. Et vous pouvez rester debout pour la bénédiction. Jésus a dit, « Je ne viens pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Je ne viens pas pour les bien portants et les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croyez en moi et vous vivrez. Que Dieu, l'au-delà de tout, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.